Africa. Woo.
Nanka nanka moy japp golo ci ñaay bi.
Quelle plus belle expérience que la liberté? Quelle plus grande aventure qu'un voyage en solitaire pour l'éprouver?
Rêver
un impossible rêve. Porter le chagrin des départs. Brûler d'une possible fièvre. Partir où personne ne part. Au cours d'un voyage, partir en voyage. Suivre l'étoile plutôt que les chemins. Se laisser porter par l'intuition qu'il y a toujours un ailleurs à découvrir et d'autres vies à rencontrer. Soyez les bienvenus, vous écoutez Sama Africa. Sama Africa, c'est le podcast qui vous emmène chaque mois en Afrique pour un voyage dont vous n'êtes pas sûr de revenir. Je m'appelle Cyril et après une longue immersion au Sénégal, je vous emmène à la découverte d'autres horizons africains, du Mali au Burkina Faso.
Épisode 7, entre Mali et Burkina, on the road again.
Cette fois on est parti, je sais pas pour combien de temps, mais ça roule.
Ce 10 février 2003, je suis au Mali, dans un train qui m'emmène de Kaï à Bamako. Le voyage a commencé 2 jours plus tôt, à Tambacounda, et doit se prolonger jusqu'à Mopti, où j'ai rendez-vous avec mes cousines. Pour l'instant, je dévore les kilomètres, et je savoure simplement ma première grande expérience de routard solitaire. Je me laisse porter par les événements, les rencontres, les imprévus.
J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir demeurer en repos dans une chambre.
Il avait peut-être raison, Blaise Pascal. J'aurais pu rester dans ma case au Sénégal, je n'en avais pas fait le tour. Mais quelque chose m'invitait à reprendre la piste, à remettre du mouvement, à aller voir plus loin. Depuis quelque temps, mon lecteur MP3 m'envoyait des messages subliminaux.
Nous étions jeunes et larges d'épaule, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again.
Pars, surtout ne te retourne pas. Pars, fais ce que tu dois faire. N'échappe à rien, pas même à ses fuites. Quand on se pose, on est mort.
Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard.
Au matin pris mon sac à dos, parti au fil de l'eau. Sur le chemin, un brin rêveur, devenu voyageur.
Dans un coin de ma case, même mon sac à dos commençait à me chanter des trucs chelous.
Je veux que tu m'emmènes ailleurs, ailleurs, ailleurs. Je veux que tu m'emmènes ailleurs, ailleurs, ailleurs. Je veux que tu m'emmènes ailleurs, ailleurs.
Alors j'ai pris mon sac à dos et j'ai quitté Chicago. J'ai laissé le Klep et Dangan, le Saloum et le Sénégal. D'autres Afriques m'appelaient. Je rêvais du Mali, du pays d'Ogon et de Tombouctou. Je rêvais du Burkina Faso, où vivaient les amis de la troupe Saaba. Je rêvais du Niger, de voir le village où vivait un jeune garçon que je parrainais depuis quelques années, par l'intermédiaire de l'association Aide et Action. L'aventure commence le 8 février 2003, au Sénégal, à la gare ferroviaire de Tambacounda. Le premier contretemps, c'est la suppression du train pour Bamako que je comptais prendre le samedi soir. Le prochain départ est prévu dans 4 jours. Beaucoup trop long. Je passe la nuit chez Ahmet et je rejoins la gare routière de Tamba au petit matin pour trouver un véhicule en direction du Mali. Je trouve assez vite une place dans un taxi brousse, une vieille Peugeot 505 Break qui peut transporter 7 passagers et tout leur bagage en plus du chauffeur. Il y a 180 km à parcourir pour rejoindre Kidira, à la frontière malienne. Ça va le faire. Ou pas. Au bout de 30 km, le train arrière droit de la 505 s'affaisse et un sinistre bruit de frottement se fait entendre. La voiture s'immobilise, l'essieu arrière a lâché, on a perdu une roue. Commentaire lucide du chauffeur, on est trop chargé.
C'est une catastrophe. Regardez-moi ça.
Réparation sur place impossible et aucune chance de trouver un véhicule avec des places libres pour Bamako à cet endroit-là. Au bout d'une heure en plein soleil, je réussis à trouver une place dans un taxi qui rentre sur Tamba. Mais 5 km plus loin, le chauffeur se fait cueillir par un gendarme parce qu'il n'a pas de carte grise. Les passagers sont débarqués, le véhicule est immobilisé. C'est en quart que je finis par revenir à la case départ vers midi. J'ai déjà emprunté 3 véhicules différents, pour rien. Bamako est toujours à 900 km.
Njena, fini nindula. Sulamamusu, fini nindula. Kai tomoro tololo.
Deuxième tentative et deuxième taxi brousse. Pas en meilleur état que le premier. Je dois tenir la portière pour qu'elle ne s'ouvre pas en roulant. Nous parvenons pourtant à Kidira en fin d'après-midi. Je ne suis pas le seul toubab du taxi. Je rencontre Alejandro, un routard espagnol de 28 ans qui va lui aussi à Bamako. Nos visas sont en règle et après le passage de la frontière, nous trouvons un minibus en direction de Kaï. La nuit est tombée. Malgré la fatigue, les deux toubabs jubilent de se retrouver entassés avec une vingtaine de personnes dans ce minibus qui traverse la nuit africaine sur une piste chaotique. Avec une candeur très touchante, Alex sort sa frontale, il ouvre son guide Lonely Planet à la page du lexique franco-bambara et tente d'entamer une communication avec des autochtones pliés de rire. Nous parvenons à Kai aux environs de minuit. Le premier train pour Bamako doit partir à 7h le lendemain. Nous passons la nuit en plein air, sur la terrasse d'une auberge de jeunesse.
Lundi 10 février, Kai, au Mali. Voilà, j'ai quitté le Sénégal hier soir, après un trajet épique entre Tambacounda et Kai, et bien qui dira. Ce matin, après une nuit au relais jeunesse, je devais prendre le train à 7h. Et puis le train ne part pas ce matin finalement, il partira ce soir à 19h45. Donc et ben, il va falloir passer la journée, on va prendre le temps. Je suis avec un gars assez sympa là, un espagnol, qui a 28 ans, qui baroude aussi, qui va travailler à Bamako. Et... voilà, on va passer la journée comme ça. Il fait pas trop chaud, le soleil est voilé. C'est cool.
Située sur le fleuve Sénégal, la ville de Kai a gardé quelques vestiges de son passé de capitale coloniale du Soudan français. Après un petit tour de ville, nous rencontrons Loupi, un commerçant qui nous invite à prendre le thé au bord de la route. Palabres, photos et jeux avec les enfants de passage sont au programme de l'après-midi.
Toujours à Kai, boutique de Loupi, musique malienne.
Ah, musique guinéenne.
Nous revenons à la gare en début de soirée pour constater qu'il y a de l'agitation autour du train. 2 heures de chargement ininterrompu des wagons jusqu'au moindre petit recoin. Certains voyageurs transportent des sacs énormes, parfois des sacs de riz de 50 kilos. Cette fois, ça sent vraiment le départ.
On est le 10 février 2003, on est à Kai, donc je suis avec Alex là, ben, on va prendre le train pour Bamako, et il est 19h30 passé, ben, je vais lui passer le micro, il va vous dire un petit mot.
Bonjour, on est en train de trouver si le gars qui s'assoit en face de moi, il a les billets aussi seulement de théâtre ou la femme qui est à côté de ce mec-là, elle n'a pas de billets. Bon, ils sont en train de disputer, on va demander une translation instantanée. Attention.
Allez, tu sois femme, allez les mains.
Allez,
ne baisse pas
mon mari. Ne marque pas de vous, fille, madame.
Non.
Oui, je crois qu'il est... Tu avais raison. Les billets, c'était doublé. Voilà, c'est la translation officielle. Voilà, mais de toute façon, je vous passe Cyril encore une fois.
Le trajet promet beaucoup, puisque le départ est annoncé à 19h45. Je pense qu'on ne partira pas à l'heure. Et on doit arriver à Bamako demain matin à 9h ou 10h. Bon, je pense que j'aurai d'autres occasions pendant la nuit, qui s'annonce longue, de faire appel au magnéto et puis de vous faire partager un peu tous les bruits de cette merveilleuse traversée. A plus.
Un train donc. Mon premier train d'Afrique. Un train de nuit. Qui s'élance à 21h en direction de Bamako. Tant pis pour les paysages, mais quelle ambiance! Il fait très chaud dans ce wagon de deuxième classe, et c'est un joyeux bordel, avec des déplacements permanents, des bagages de partout. 4 mamas africaines se sont couchées sur leurs sacs devant la porte, dans l'espace qui permet de circuler entre les wagons. Un Sénégalais a mis en route son radiocassette. Ça palabre beaucoup aussi.
Mon nouveau voisin est en train de s'installer. Il a 3 énormes sacs. Je ne sais pas où il va les mettre. Alors, ça pas là.
La vie. dans la ville, dans les trains.
Le calme est revenu lorsque le train ralentit au bout d'une heure pour faire un premier arrêt en gare. L'agitation reprend de plus belle dans le wagon et plus encore sur le quai.
Premier arrêt dans un village, donc j'hallucine un peu, on est en pleine nuit, il va être 10h du soir, il y a du monde plein la rue, et on peut tout acheter, des couvertures, des trucs pour chasser les mouches, à manger, à boire des fruits, de l'eau. C'est du délire.
En réalité, le train va s'arrêter dans chaque ville en bord de voie et être pris d'assaut par une foule de vendeurs à la criée, à chaque arrêt, toute la nuit. Tout se vend et tout s'achète par les fenêtres grandes ouvertes. Des éventails, des tabourets, des paniers en osier, mais surtout de la bouffe. Des fruits, bananes, mangues, papayes, oranges, mais aussi des oignons, des pommes de terre, des carottes, des aubergines, des arachides ou des beignets, des gâteaux, des ignames cuites ou de la viande grillée. Pour 5 francs CFA, on peut se payer un repas complet dans chaque village. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais j'étais content de voir le soleil se lever pour découvrir les premières images du Mali, les villages de brousse, les paysages vallonnés, les champs de manguiers, et puis l'arrivée en gare de Bamako, enfin, vers midi. La sortie de la gare, la foule incroyable, les couleurs, les odeurs, l'agitation, et tellement de lumière. Ni tout à fait l'Afrique que je connais, ni tout à fait une autre. Je me pose un moment sur un trottoir avec Alex, pour boire un coup et profiter de ce tableau pittoresque. Nous nous séparons en nous souhaitant mutuellement bonne continuation, bonne chance et bonne vie. Hasta luego, amigo, et merci pour ce trajet. Voici donc à Bamako. Je ne connais personne dans la capitale malienne, mais des amis français m'ont donné un numéro de téléphone à composer à mon arrivée. C'est encore un jeune homme prénommé Ahmet qui vient me chercher, et c'est une autre famille Touré qui m'accueille, dans un quartier très résidentiel de la ville. Il faut dire que la mère d'Ahmet, qui est française, travaille pour la Banque mondiale, et que son père, depuis 6 mois, c'est juste le nouveau ministre de l'économie et des finances du Mali.
Mon papa est député, débrouillez-toi. Même si papa est ministre, faut travailler.
Je repense à mes nuits sur les toits du pays Dogon, à celles que je viens de passer dans un wagon de seconde classe, et je savoure le plaisir d'une douche chaude, d'un vrai repas, d'un vrai lit dans une vraie chambre, chez un ministre. Un peu de confort de temps en temps, ça ne gâche pas le voyage. Après une nuit réparatrice, branle-bas de combat, Del réveille. J'ai rendez-vous avec toute la famille de Touré dans la maison des grands-parents, à Dio, un village situé à 45 km de Bamako. C'est le jour de la plus grande fête musulmane de l'année, l'Aïd el-Kébir, plus connue au Sénégal et au Mali sous le nom de Tabaski. Après la corité sénégalaise à Pikine 2 mois plus tôt, je vis encore un moment familial incroyable avec un autre clan Touré, rassemblé sous le grand manguier de la cour. Le ministre est là, ainsi que tous ses enfants, les frères et les sœurs, les oncles et les tantes, les cousins et les cousines, les grands-parents, les enfants, tous dans une magnifique tenue. Comme au Sénégal, je suis le seul blanc, mais surtout l'invité de marque, accueilli avec tous les égards et toutes les attentions. Plus loin de ma famille que je ne l'avais jamais été, je savoure pourtant la chance incroyable que j'ai de me trouver là, d'être accueilli avec tant de générosité et de simplicité, de pouvoir partager ce moment-là en immersion dans une famille malienne. Je me sens très privilégié, je ne voudrais être nulle part ailleurs et je jubile intérieurement. Sous l'arbre à palabres, entre deux plats de mouton ou en attendant les verres de thé, c'est très politique. On y parle de la guerre civile en Côte d'Ivoire, de la mondialisation ou de la place de la femme dans la société malienne. Je revivrai cette incroyable journée par procuration, 2 ans plus tard, un soir après l'école, dans ma voiture, sur une autoroute de la région lyonnaise. Sur France Inter, à l'heure de Là-bas si j'y suis, Daniel Mermet me ramène au Mali. Il est invité dans une famille, un jour de Tabaski. Et lui, il a sorti son magnéto.
Ça va, pas ça?
Mais ça va bien. Ah. On vous attendait.
Bonsoir, madame. Ça va bien?
Ça va bien.
Et vous, ça va?
Ça va.
La maison, les enfants?
Ça va. Ça va la maison?
La santé?
Ça va la femme, oui.
Ma femme, oui, ça va bien.
Ah bah oui. Ah. Merci.
C'est la fête aujourd'hui, hein?
Ça va, vous?
Oui, ça va bien, ça va bien. Très bien, très bien.
Fatigué?
Un petit peu, mais ça va, ça va, ça va. On est content de vous voir là, tous.
On est ici, on est content. Là, on est arrivé chez vous, là.
Ouais. Merci de votre accueil. Oh, mais il y a l'électricité.
Hein? Pas tout à fait. C'est l'énergie solaire.
Ah, c'est l'énergie solaire.
Eh oui, l'énergie solaire pour éclairer cette cour où nous nous trouvons, c'est-à-dire le cas, comme on dit, une cour à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs maisons, les maisons de la famille d'Adama Camara. Et c'est là... Nous sommes reçus, vous avez vu comment on est quand même très très bien reçus avec un sens de l'hospitalité. Alors c'est la fête aujourd'hui, c'est la fête de Tabaski, c'est-à-dire que c'est la fête de l'Aïd, c'est-à-dire que c'est la fête du mouton. Tout le monde s'est fait le plus beau possible, on essaye vraiment d'être, de se faire bien voir, et c'est réussi. Alors ce jour-là, eh ben, on fait du mouton, et on mange le mouton.
Au lendemain de cette folle journée festive, Ahmed prend le temps de me faire découvrir Bamako, le port des sabliers de Kalabankoro sur le fleuve Niger, la colline de Koulouba, où s'élève le palais présidentiel, la maison des artisans, le marché rose. Après 3 jours intenses, je prends congé de la famille Touré et je me rends à la gare routière de Bamako pour trouver un véhicule en direction du Nord Mali. Je suis attendu à Mopti, une étape incontournable sur la route du pays Dogon.
Février 2002, 2003 d'ailleurs, dans les rues de Mopti.
Situé au confluent du Niger arrivant de Guinée et du Bani arrivant de Côte d'Ivoire, respectivement appelés le fleuve blanc et le fleuve noir, en raison de la coloration plus ou moins sombre de leurs eaux, Mopti préside à la naissance du Grand Niger, qui lance à partir de là un véritable réseau de bras et de canaux dans lesquels il enserre une multitude de mares et de lacs, amorçant la longue courbe qui va donner à toute la région son nom de boucle du Niger. Ce n'est pas pour rien qu'on a surnommé Mopti la Venise du Soudan. Toutes ses activités sont plus ou moins liées à la vie du fleuve et au rythme de ses crues. Les bozos, qui sont les plus anciens occupants du lieu, fabriquent à la main ces longues et merveilleuses pirogues que l'on voit fendre silencieusement les eaux et dont certaines sont capables de transporter des tonnes de marchandises. Peuple de pêcheurs et de chasseurs, ils sont les maîtres de l'eau traditionnelle de toute la région. Ce passage est un extrait du livre Amkoulel l'enfant Peul, l'ouvrage autobiographique dans lequel le grand conteur Amadou Ampateba raconte son enfance malienne. Ce 15 février 2003, je découvre Mopti avec mes cousines Karine et Vanessa, que j'ai réussi à retrouver la veille à l'hôtel Dourev. Avant de partir pour le pays Dogon, nous prenons une journée pour faire le tour de la ville, voir les marchés, et nous nous offrons un tour en pirogue jusqu'au confluent du Bani et du grand fleuve Niger. Comme vous vous en doutez, j'ai évoqué avec les cousines les souvenirs de notre séjour commun entre Mali et Burkina. En 2003, j'ai rendez-vous au Mali, à Mopti, avec mes cousines Karine et Vanessa. Donc là, je suis avec ma cousine Karine. Est-ce que tu as un souvenir de nos retrouvailles le soir de l'arrivée à Mopti ? Je ne sais même plus qui est arrivé en premier.
Ah si, alors ça, je m'en rappelle bien. On est arrivé en premier avec Vanessa. On s'était donné 2 adresses d'hôtel. Donc on a fait le premier, on a demandé si tu étais là. Tu n'étais pas là.
Oui, je revois bien l'hôtel où on s'est retrouvés. On avait fait le premier hôtel où tu n'étais pas arrivé. On était allé demander.
On allait au deuxième. Tu n'étais pas là non plus.
Et deuxième hôtel, tu n'étais pas là non plus. Donc... On s'est posé, on est allé manger.
On s'est couché et on était à peine couché, ils sont venus nous réveiller, tu arrivais.
On s'est couché et à peine on était couché, le monsieur est venu nous voir. Je crois bien que celui que vous attendez est arrivé. Et du coup, on s'est retrouvé pile, on est arrivé en même temps à 2-3 heures près. Quoi.
Hey, plutôt raccord sur leurs souvenirs les cousines. Arrivées quelques jours plus tôt au Burkina, elles viennent d'effectuer les 500 km depuis Koudougou en 2 étapes, avec une nuit à Ouaigouya. J'ai une bonne excuse pour être arrivé le dernier à Mopti. Après 15 heures de train entre Kaï et Bamako, j'ai mis 12 heures en car pour effectuer les 600 km entre Bamako et Mopti.
Donc le rendez-vous à Mopti, c'est pas un rendez-vous au hasard, on s'est donné rencard pour aller explorer le pays d'Ogo. Et donc le lendemain, on part de Mopti, on doit attraper un taxi brousse qui part en direction de Bandiagara. Et il me semble qu'à Bandiagara, on a bien galéré. Parce qu'on arrive à Bandiagara, on veut voir le pays d'Ogon, mais on n'a pas de véhicule et on n'a pas de guide.
Mais on a un nom de guide, il me semble.
Eh bien, alors, il me semblait que tu avais trouvé un guide, mais qui finalement nous avait planté ou c'était plus lui qui pouvait. Et je me souviens qu'on a pris un taxi.
Et il me semble qu'on a acheté le taxi pour être sûr de pouvoir partir, parce qu'il y avait des places libres encore.
Ah oui, c'est
on
ça.
On a acheté toutes les places.
On avait payé tout le taxi et le gars, il s'était arrêté pour prendre d'autres personnes à qui il faisait payer alors qu'on avait payé toutes les places.
En effet, le guide que j'ai contacté par téléphone n'est pas disponible. Mais il nous envoie son frère, ou son cousin, un jeune Dogon de 25 ans qui se prénomme Amadou. Celui-ci nous propose une rando de 6 jours à travers la falaise et les villages Dogon, à un tarif qui nous semble raisonnable. Nous acceptons avec enthousiasme. C'est donc en taxi et par une piste mal en point que nous quittons enfin Bandiagara pour rejoindre Sanga, le premier bourg du pays d'Ogon, sur le plateau. Est-ce qu'il y a un moment particulier de cette semaine en Pays d'Ogon qui te revient ?
Moi, les trucs, j'ai plusieurs moments, parce que j'y ai repensé en t'écoutant là, sur les trucs d'avant. Et déjà, moi, c'est les nuits.
On dormait sur les toits des maisons. J'ai souvenir qu'on n'avait pas très chaud parce qu'on n'était pas très équipés.
Les nuits sur le toit, sur les toits des maisons où on a le ciel étoilé... pas de bruit, complètement paumé, ça j'en ai un super souvenir quoi. Et vraiment les nuits sur le toit.
Moi aussi, il me reste les toits évidemment. Malgré la fraîcheur, le bonheur de ces quelques nuits totalement magiques, à Tireli, à Nombori ou à Yabatalou. La douce rumeur des villages en l'absence de tout bruit de moteur, le chant des criquets et des grenouilles, l'absence aussi de toute pollution lumineuse, qui me donne à voir les plus beaux ciels étoilés de toute mon existence.
Les paysages. Hein.
La rando dans les falaises, quoi, comme le pays d'Ogon, au pied de la falaise ou sur la falaise.
Quand tu es en haut de la falaise et que tu vois au loin la savane, les petits escaliers dans la falaise quand on descendait où on croisait les filles en tongs avec 3 kilos, voire plus, chacune sur leur tête.
On se faisait doubler par les dames africaines en tongs chargées.
Alors que nous, on galérait et qu'on soufflait alors qu'on n'avait pas de sac quand même. Enfin, un petit
alors oui, encore, les paysages, bien sûr. cette incroyable falaise de Bandiagara qui s'étire sur 200 km. Classée elle aussi à l'UNESCO pour son patrimoine culturel et ethnologique, archéologique et géologique. La lente découverte, à pied, village après village, d'une région incroyablement belle et surprenante, et cette impression qui ne me quittera pas de la semaine, me sentir à la fois hors du temps et hors du monde.
Février 2003, on est à Yabatalou, en pays d'Ogon, au Mali. La nuit est tombée, il y a Alpha Blondie qui chante, il y a les étoiles brillent, en train de boire une petite bière. Ben, je vais passer la parole à Mister Amadou, notre guide 100% d'Ogon, qui va vous dire un petit mot.
Alors, bonsoir, et on vient d'un village qu'on appelle Benyamato. On a passé la nuit là et on est venu mardi midi dans une petite village qu'on appelle Indelou. On a fait une bonne l'après-midi ici, on a mangé midi, on est allé au bord de la falaise voir les petits villages qu'on voyait au pied de la falaise étant en haut. En fait, ici avec deux filles françaises, avec un monsieur sénégalien, en fait, qui sont très contents de ce pays d'Ogon et qui voient très joli. Et là, ils sont très gentils, très souriantes aussi. Ils mangent bien des salades avec des tomates. Pendant le soir, quand ils n'ont pas ça, ils ne sont pas contents avec de l'oignon frais d'Ogon. Allez, bonsoir et merci.
Ce fut une autre des divines surprises de ce périple en pays d'Ogon. Peuple de cultivateurs. De la salade, des tomates, des ignames et des oignons fraîchement cueillis dans les jardins à presque tous les repas, en complément de la trilogie riz, pâtes, couscous. Et pour contraster avec la quiétude de nos journées de marche au milieu des champs d'oignons en longeant la falaise, l'animation et les couleurs éblouissantes des marchés quand nous arrivons dans les villages en fin d'après-midi.
Mardi 18 février 2003, arrivé à Tirelli, en pays d'Ogon, Mali, le marché.
Et alors j'ai un autre souvenir, et je pense que c'était au pays d'Ogon, peut-être que je me trompe, mais je suis quasi sûre que c'était au pays d'Ogon, d'une soirée où il y avait dans un village un petit marché super joli, où on avait fait le tour et où on avait bu du pastis d'Olo, qui nous avait démonté.
Le d'Olo, c'est la bière de Mille.
Oui.
C'est ça.
Donc qui est servie chaude sur le marché, puisque rien n'est au frais.
Là, il est fait chaussé pour fumer. Là, c'est d'arachide.
Dans les campements à l'arrivée, la bière manque aussi souvent de fraîcheur. Mais nous sommes super bien accueillis à chaque étape, comme ce soir-là, à Yabatalou.
Alors Mamadou, le propriétaire du campement où on est ce soir, de Yabatalou, il va dire un petit mot en dogon.
Comment tu t'appelles?
Cyril.
Cyril. Cyril est panayani. Indel Cyril ni sew yere sew getre ben yere me bière tutru yanga papa bière ko tru yanga me ñaj ke wakena ko campement Mamadou Guindo campement ki kam me tre ko nda ya des frigo et des bon tre le bien peni merci.
Bon, Amadou, tu peux nous traduire s'il te plaît?
Alors on est à Yabatalou, on est chez Mamadou aussi. Et c'est le propriétaire de l'hôtel Campement. Il nous donne toujours soyez les bienvenus. Et il est très content de nous voir chez lui, ici, à Yabatalou, en prenant une petite bière, en voyant les belles étoiles avant que la lune arrive. Et donc, il est très content. Il remercie tout le monde.
Après, j'ai le souvenir des douches aussi, avec notre petit seau. Et j'ai le souvenir d'une douche en particulier où je me lavais. Et en fait, comme il y a les murs qui arrivent à hauteur de la tête, je me douchais en te regardant jouer au foot avec les gamins du village.
Oui, c'était le même soir, à Yabatalou. Après l'ascension de la faille de Dourou la veille, nous redescendons du plateau à la plaine, et en arrivant dans le village, je remarque que des jeunes jouent au foot sur quelque chose qui ressemble à un vrai terrain. Je demande à Amadou si ça le branche d'aller jouer un moment avec eux, et je joue ce soir-là le match de foot le plus mémorable de mon existence. Le récit de la rencontre par Amadou.
Ok, j'ai joué un petit match avec Cyril vers ces petites soirées. Et on a joué avec le petit village Yabatalou. Donc Cyril, c'est lui la première personne qui a marqué le premier but. Et après lui, il y avait un de son équipe qui a marqué un but. Donc on a fait le match à France contre le pays d'Ogon. Donc lui, il était tout seul, c'était le seul Français. Et après, moi, j'ai marqué le guide Hamadoun, il a marqué un but. Et c'était 2-1. Après, un de mon équipe a marqué un but aussi, c'était 2-2. Et juste à la dernière moment, à 5 minutes, Cyril a marqué le troisième but. Et là, il était fatigué, il avait envie de prendre la bière et une bonne douche. Et là, il dit au revoir à tout le monde. Et après, lui et moi, je suivi derrière lui, le guide, il était fatigué aussi. Il a fait toute la journée à marcher. Après, il est venu là et il était avec la fille, il a fait le compte-rendu. Comment le match a été passé. Après, il a fait son douche, il était content. Une bonne douche vaut mieux qu'un faux marabout. En fait, après la douche, il a commandé une bière fraîche. Là, il est content. Il rigole et il regarde les étoiles. Allez.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas confondre?
Il ne faut pas trop confondre l'Angleterre et la pomme de terre. Hein.
Le match de foot a été suivi par un observateur très particulier. Le vieux Guindo, un sage du village. Il viendra même à notre rencontre pour nous souhaiter la bienvenue.
En fait, bonsoir encore. Vous avez un monsieur qui veut vous parler en langue dogon, qui s'appelle Ankundi Guindo. Il veut vous parler un peu en dogon. Après, moi, je vais traduire ça en français.
Bon, à moi, je suis là, et Guindo. Bon, Emeni, bon, d'accord, nous, Emeni, je suis là, et je suis là, et je suis
papa.
Papa. Parce que même papa, ni là, il y a un barrage, un barrage, quand il y a des ballons, tama. Ballons, tama, il y a un andaram bilo bilo sanu koy be tanga tanga beung balung tama yire teme mo be santo bo bilo balung tama tanga bo parce que imbal o je yiwa andaram kuna wo bidno bere kwa e baba kuna bo be kum bidno ningena kune bo do kana so girga ba so ki imbere ko bere olga ay wa ingana bo tinge jo tinge problem ko ke pri kala ganya ko ke do bo je bere no ko yu kwa wa merci
ça tu traduis s'il te plaît.
Non, il faut éteindre d'abord. Non.
Non, non, tu expliques.
Non, il faut que j'écoute ce qu'il a dit très bien. En fait, bonsoir, vous avez vu Ankundi Guindo qui a un peu parlé sur la radio, sur le match qu'on a fait avec M. Cyril, c'est vers l'après-midi. Et il est venu de son jardin, il a rejeté son jardin. En venant, il a rencontré M. Blanc avec un guide qui jouait au football. Il était très content et il a arrêté environ 30 minutes pour voir le monsieur français. Cyril qui a marqué un but et il est très content de voir un Français qui vient marquer un but au pays d'Ogon avec les jeunes des villages de Yabatalou qui jouent le football chaque soir mais ils n'arrivent pas à marquer le but. Et donc ce soir il a vu un Français qui a marqué un but. Il est très content de voir ça, il est content. En fait là lui il est très content de vous, il vous dit soyez les bienvenus, vous êtes bienvenus. Il vous donne bonsoir à tout le monde, bienvenue.
Merci.
Oui, merci.
Quand le vieux Guindo a pris congé, j'ai immédiatement pensé à Ogotemeli, le vieux sage qui avait initié l'ethnologue Marcel Griol à la culture Dogon. J'avoue que je n'ai pas tout compris en lisant l'ouvrage « Dieudo », publié en 1948, que j'avais emporté avec moi au pays Dogon. Ma seule et unique lecture d'un ouvrage d'ethnologie, tiré des entretiens de Griol avec Ogotemeli.
Et c'est au cours de ces entretiens que cet homme,
Marcel Griol,
m'a ouvert, pour ainsi dire, l'Afrique, m'a fait voir un noir tout à fait différent de celui auquel je pensais, et cet homme-là m'a fait entrer dans un monde tout à fait différent, qui était le monde de la connaissance profonde. Et pourtant, il ne s'est agi là que d'une première connaissance, car je me suis aperçu que cet homme attendait que je sois en état de comprendre pour me parler. À une question que je lui ai posée dans les premiers temps, qui était la suivante, « Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt ?» Il m'a répondu, « Mais si j'avais parlé plus tôt, vous n'auriez rien compris. » Eh bien, il avait attendu 15 ans que je sois renseigné sur la plupart des rites, sur la plupart des habitudes de sa population, de manière à ne pas avoir à perdre de temps avec moi pour m'expliquer toutes les choses et tous les mots dont il se servait pour me faire connaître l'ensemble de cette science.
Dans l'avant-propos de Dieudo, la fille de Marcel Griol évoque la cérémonie qui s'est tenue au pays Dogon à la mort du chercheur en 1956.
À celui qui avait si bien compris leur culture, les Dogons ont voulu rendre un ultime hommage. Ils ont célébré, selon leur rite, ses funérailles et sa levée de deuil. À la fin des cérémonies, au moment émouvant où la houe du cultivateur mort est brisée, pour montrer la fin de ses travaux sur terre, les célébrants, faisant passer dans ce simple geste leur sens spontané du symbole, brisèrent l'outil qu'ils avaient toujours vu dans la main de celui qui s'était mis à l'écoute de leur vieillard, un crayon.
« 21 février 2003, on est à Yabatalou, le campement est juste à côté de l'école et puis la classe vient de commencer. »
Après 6 jours de marche, notre aventure en pays Dogon touche à sa fin. J'ai encore le temps de craquer pour une magnifique tunique en bogolan au marché artisanal d'Ende et de profiter d'une dernière nuit en terrasse à Teli. Le lendemain, nous rejoignons Kanikombolé en charrette, puis la grande ville de Koro en bâché, par une piste poussiéreuse. L'agitation, la foule et le flot des véhicules à moteur ne m'avaient pas manqué. En début d'après-midi, nous trouvons un car pour effectuer les 280 km jusqu'à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où nous passons la nuit. Je quitte le Mali enchanté par ces 2 semaines passées trop vite, et je regrette déjà d'avoir manqué de temps et de n'avoir vu ni Djéné, ni Tombouctou. Mais je reviendrai. Mektoub. Nous quittons bien vite Ouaga pour regagner Koudougou, la 3e ville du pays. Pour mon premier jour au Burkina Faso, je me laisse guider par les cousines, qui ont déjà eu l'occasion de voyager ici et qui ont quelques repères.
Burkina 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 Bur
Je retrouve avec plaisir des visages amis que j'ai connus en France quelques années plus tôt quand ils étaient venus danser dans mon village avec la troupe Saaba. Wango, Athanase, Mado ou Clémentine.
25 février 2003, Benem Nouma, Kodougou, Burkina Faso. Répétition du groupe Saaba.
Les Saaba, c'est une troupe de musique et de danse traditionnelle qui vient régulièrement en France et en Europe à partir de 1990. La troupe Saaba n'est pourtant qu'un élément d'un projet éducatif beaucoup plus vaste, né à Kodougou dans les années 80, celui de l'association Benem Nouma.
À 100 km de la capitale du Burkina Faso, se trouve un coin d'Afrique unique de vitalité sociale et d'élan solidaire. Implantée à Kodougou, l'association Benem Nouma, membre d'Emmaüs International, est une pionnière dans la région. Elle a créé le premier centre de formation professionnelle, la première radio communautaire et le plus grand festival de musique d'Afrique de l'Ouest, l'ENAC. Culture, formation, enseignement, entre ces murs, une multitude d'activités se côtoient. Un laboratoire d'idées qui a fait de l'éducation sa priorité dans un pays où le taux d'alphabétisation est parmi les plus faibles du monde.
Une seule main ne ramasse pas la farine. Un seul doigt ne saurait laver tout le visage. L'union fait la force. Benem Nouma signifie en langue morée, c'est bien d'avoir des gens avec soi. Emmaüs partage. Emmaüs, c'est un mouvement de solidarité. Et Benem Nouma, c'est ça. Si nous sommes dans Emmaüs, ce n'est pas par hasard. Parce que voici des gens qui se battent, qui transpirent pour avoir leur dû et qui aident avec ce qu'ils ont.
Cet homme qui parle avec tant de conviction dans la voix, c'est Koutbi Koala. Fils de forgeron, professeur d'anglais, musicien, il est le fondateur de la troupe des Saaba, de l'association Benem Nouma et le créateur du Festival international de musique des NAC, les nuits atypiques de Kodougou. La légende raconte que sur sa carte de visite, il a fait imprimer une devise. Détermination et solidarité égale développement. Même s'il est très occupé, nous aurons l'occasion de le croiser et de le saluer pendant notre séjour dans le secteur 10 de Kodougou. J'ai le souvenir d'une première semaine paisible à Kodougou. Je me souviens d'avoir été accueilli régulièrement chez Mado, avec ses jumelles. Je me souviens des plats de spaghettis aux trois manguiers, un maquis proche de la maison d'accueil de Benem Nouma, où nous logeons. Je me souviens de l'atelier de Maurice, le prince des batiquiers. À Benem Nouma, je me souviens des répétitions des Saaba, du restaurant école Le Sourire, où travaillent des apprentis cuisiniers. La chaleur de l'accueil, des tas de rencontres et une relative sérénité malgré toutes les difficultés. Ce sont les souvenirs immédiats qui me reviennent de ma première semaine burkinabé.
Moi, j'ai un souvenir à Kodougou. On est en vélo. On a grillé un stop. Je sais pas si c'est pas toi. On s'est fait arrêter par la police. Et il a fallu discuter pendant une heure pour pas payer l'amende, quoi.
C'est possible.
Je réponds c'est possible parce que pour ma part, je n'en ai aucun souvenir. Pourtant, dans mon carnet de voyage, à la date du lundi 24 février 2003, j'ai noté deux mots. Vélo, Nassara. Les Nassara, en langage moré, ce sont les Blancs, ceux qu'on appelle les Toubabs au Sénégal ou au Mali. Et comme Karine, Vanessa se souvient bien de l'escapade à vélo des Nassara dans Koudougou.
Si, alors j'ai un autre souvenir, le vélo. On avait pris des vélos et on allait en ville en vélo et on s'était fait arrêter par les flics parce que j'avais grillé un stop. Donc moi, j'avais vu tout le monde qui grillait le stop devant moi. Donc j'ai grillé le stop et là, j'ai entendu, avant d'entendre le flic qui sifflait, j'ai entendu la petite jeune qui était à côté qui vendait ses légumes qui s'est mise à exploser de rire. Et en fait, le flic nous a arrêtés parce que derrière moi, avec Karine, vous avez aussi grillé le stop. Et je me rappelle qu'on avait palabré un bon moment parce qu'il voulait nous mettre une méga amende. Et donc, on était resté au moins une heure, je pense, à essayer de négocier pour qu'il nous laisse. Parce que j'avais beau lui dire que tout le monde était passé au stop, nous, il nous avait pris les Toubabs, là, qui arrivent et qui grillent le stop. On s'était retrouvés donc sous cet arbre à négocier pendant une heure. Ouais. On avait dû finir par payer, mais moins que ce qu'il nous avait demandé au début, je pense.
Je pense que le flic avait voulu se payer les Nassara.
Ouais, bah exactement, parce que tout le monde devant moi l'avait grillé, ce stop.
Pour continuer à évoquer le Burkina, je suis allé retrouver la personne de ma famille qui connaît le mieux le pays des hommes intègres, ma tante Renée, celle par qui toute l'aventure a commencé ici.
On a beaucoup voyagé l'un et l'autre en Afrique. Moi, je suis parti longtemps, parce que je suis resté plusieurs mois. Toi, t'es parti souvent. Est-ce que t'as déjà fait le compte de...
J'ai vécu plus d'une année dans le secteur guise de Koudougou.
Pop, 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 pop. Alors écoute, ma tante Afrique, je te propose qu'on en reste là pour cette fois et qu'on prolonge notre discussion sur le Burkina dans le prochain épisode. Celui dans lequel je vous emmènerai encore un peu plus loin dans l'Afrique sahélienne, au Burkina Faso, mais aussi au Niger. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont accompagné ce 7e épisode de mon voyage sonore en Afrique de l'Ouest, entre Mali et Burkina. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, par le canal qu'il vous plaira. C'est vrai, j'ai de plus en plus de mal à tenir les délais, mais rassurez-vous, je ne lâche pas l'affaire. Merci à mes cousines Karine et Vanessa pour les souvenirs partagés. Merci aussi à Mickey pour la lecture. Et à Emeric qui conclura cet épisode. Pour les sources des citations et des extraits, merci à Blaise, à André, à Jack, à Amkoulel, à Marcel, à Koudbi, à Sotigui, ainsi qu'à Bernard, Jean-Jacques, Fredo, Aya et tous les grands Jacques. Impossible de vous faire partager toute la richesse de la musique malienne dans un seul épisode, mais merci aux artistes qui ont accompagné la réalisation de celui-ci. Mamadou, Toumani, Habib, Askia, Badenia et Yaku, Rokia, Ali, Coco, Salif, Fatoumata, ainsi que Victor pour le Burkina. Vous trouverez toutes les références dans la description. Rendez-vous très bientôt pour un voyage qui va se poursuivre dans l'intérieur de l'Afrique, de Semaga au Burkina jusqu'à Goubey au Niger, toujours un peu plus loin. Légui, légui, à bientôt.
Un proverbe de la tradition africaine dit : l'ignorant, c'est la personne qui n'est jamais allée au-delà du seuil de sa maison. C'est la personne qui ne sait rien des autres, qui n'est jamais allée à la rencontre des autres. La progression de l'être vers le meilleur, c'est chaque jour aller à la rencontre d'une des diverses personnes que l'on a en soi et que l'on ne peut trouver que dans les autres, notamment à travers leur culture, histoire, mythes et légendes. Cette voie est celle de l'enrichissement et je suis un élève apprenti. Sotigui Kouyaté, griot et homme de théâtre malien. Yeah.
de kametoya.